Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous à l'écoute d'Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 7h.
Moi j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant je trouve que le silence il est pour lui.
Son livre est un séisme. Camille Kouchner s'exprimait hier pour la première fois à la télévision depuis la parution de ce livre. La parole se libère donc sur l'inceste. Les associations reçoivent beaucoup plus d'appels depuis ces révélations. C'est l'enquête Europe 1 ce matin et ce sera dès le début de ce journal. A priori, pas de reconfinement, mais un couvre-feu avancé à 18h dans toute la France. Nouvelle prise de parole de Jean Castex en fin de journée. Elle était depuis toujours la compagne de route de François Bayrou. La députée et vice-présidente du Modem, Marielle de Sarnez, est décédée hier soir. Vote historique aux États-Unis, Donald Trump est mis en accusation pour la deuxième fois. C'est la fameuse procédure d'impeachment qui pourrait l'empêcher de briguer un second mandat. Et puis la Terre a tourné plus vite en 2020. On va vous expliquer pourquoi.
Juste après ce journal, le géant Carrefour convoité par un groupe canadien. Bruno Le Maire a-t-il raison de s'opposer à un rachat? L'éclairage éco, Nicolas Barré. La Corée du Nord attend Joe Biden de pied ferme. Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern. Pour notre rendez-vous d'histoire, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On avait découvert son visage, on connaît maintenant sa voix. Camille Kouchner, dont le livre La Familia Grande vient d'être tiré à 225 000 exemplaires, était l'invitée de l'émission La Grande Librairie hier soir sur France 5. Elle ne pardonne pas à son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau, comme elle le raconte dans ce livre. Une prise de parole après 30 ans de silence.
Moi, je n'ai pas désigné les choses suffisamment tôt. Je le fais aujourd'hui, mais bon. Et en effet, ne pas désigner, c'est participer. Mais c'est l'emprise, ça. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que je pouvais le faire. Et même quand ma tante m'a dit « mais il faut que tu parles, parle, parle », je me sentais encore complètement coincée, alors qu'elle était là, elle était déterminée, puissante, et elle m'offrait de la protection. Elle était là, avec moi, quoi. Mais même là, je n'ai pas réussi. Moi, ce sont toutes mes lectures qui m'ont aidée. Donc voilà, j'aimerais bien que ce livre fasse la même chose.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
On vient d'entendre Camille Kouchner qui espère que son livre aidera d'autres victimes. Vous avez mené l'enquête pour Europe 1, Hélène, et il s'avère que cette affaire a bien créé un déclic. Les associations de lutte contre l'inceste sont beaucoup plus sollicitées qu'avant.
Oui, je les ai contactés une par une et c'est flagrant. La plupart me répondent qu'il y a un pic d'appels depuis une dizaine de jours. Les demandes d'aide doublent, parfois multipliées par 4, par 5. La directrice de SOS Inceste, Cathy Millard, explique que les appelants font souvent directement référence à l'affaire Duhamel et elle voit émerger des profils nouveaux.
Il y a eu une conséquence en particulier pour les personnes qui ont été agressées dans un milieu extrêmement aisé. Aussi, des personnes dont le statut de l'agresseur est un niveau assez important. Donc évidemment, le fait que là, c'est un homme public, les personnes se disent, ben voilà, moi je vais pouvoir aussi témoigner.
Et elle insiste, c'est la preuve que l'inceste existe dans tous les milieux. Les victimes qui appellent restent en tout cas essentiellement des femmes, qui se manifestent souvent après avoir eu des enfants. Pour la psychiatre Muriel Salmona, l'accueil du livre de Camille Kouchner par l'opinion publique les rassure et les incite à parler.
Ça les rend beaucoup plus légitimes. Parce qu'ils ont l'impression qu'on peut beaucoup plus prendre en compte ce qui leur est arrivé, puisque Camille Kouchner, on met très peu en cause sa parole, ils sont plus confrontés avec une loi du silence qui les bâillonnait complètement. Donc là, ils se sentent beaucoup plus en confiance pour parler.
Cet élan, les associations espèrent qu'il contribuera à briser pour de bon le tabou de l'inceste.
Voilà, merci Hélène Terzian. On vous a entendu des appels multipliés par 4 ou 5 dans les associations. Et conséquence de cette affaire, l'ex-ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a démissionné de son poste de présidente de la commission sur l'inceste. Elle était contestée en raison de sa proximité avec Olivier Duhamel.
7h04 sur Europe 1. Ce soir encore, nous serons des millions suspendus aux annonces de Jean Castex et de 6 de ses ministres.
Oui, conférence de presse à 18h alors que plus de 23 000 contaminations ont été enregistrées en une journée et que la pression ne faiblit pas dans les hôpitaux. Alors quelles sont les mesures envisagées? Réponse avec Adrien Peck.
Le gouvernement redoutait une tempête après les fêtes. Elle s'éloigne, au moins momentanément. L'accélération des contaminations n'a pas eu lieu, constate un conseiller. Une solution d'entre deux, un couvre-feu national à 18h, est donc l'hypothèse la plus probable. On évoque aussi des annonces concernant les cantines scolaires, lieux à risque de contamination. En fait, l'exécutif essaie d'adopter des mesures préventives, tant la situation peut basculer rapidement. Le plateau reste très élevé, plane plane aussi l'incertitude quant aux différents variants. Voilà pourquoi on évoque également des mesures de limitation des flux avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Exercice d'équilibriste, d'autant que revient la crainte d'une moindre acceptation des mesures, alors que la situation semble stable. Stabilité bien précaire, devrait mettre en garde Jean Castex ce soir. La dernière fois qu'un couvre-feu a été mis en place à grande échelle, à l'automne, il n'avait duré que 7 jours avant d'être remplacé par un confinement.
Adrien Beck et les cantines scolaires, on va y revenir dans le journal de 7h30. À propos des nouveaux variants du Covid, anglais, sud-africain, mais aussi brésilien, l'OMS se réunit en urgence aujourd'hui pour en discuter. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé doit également commencer sa mission en Chine, un pays qui vient de connaître son premier mort du Covid depuis 8 mois.
Et on va vous expliquer en détail cette problématique des variants, comment ils sont observés, tracés eux-mêmes, ces virus variants, c'est dans le journal de 8h tout à l'heure. On l'a appris tard dans la soirée, Marielle de Sarnez est décédée à 69 ans, des suites d'une leucémie.
Oui, la députée et ancienne ministre centriste était particulièrement proche de François Bayrou. C'est d'ailleurs le président du Modem qui a annoncé la nouvelle, Aurélie Herbemont.
Elle a été la partenaire de tous les combats de François Bayrou, celle avec qui il a toujours échafaudé ses stratégies. Marielle de Sarnez, la boussole politique, l'alter ego du leader centriste, avec qui il a partagé les moments fastes et les traversées du désert. Celle sans qui il n'aurait jamais refusé de soutenir Nicolas Sarkozy en 2012, une première dans l'histoire du centre, toujours allié à la droite. Sans son soutien, il n'aurait jamais rallié non plus Emmanuel Macron en 2017 et renoncé à sa propre ambition présidentielle. Au Modem, beaucoup l'ont toujours dit, Marielle c'est François et François c'est Marielle. Élue à Paris depuis 2001 sous les couleurs de l'UDF puis du Modem, elle a aussi été eurodéputée avant de devenir ministre des Affaires européennes en 2017 pendant que François Bayrou était ministre de la Justice. Tous deux ont dû quitter le gouvernement au bout d'un mois et 4 jours à cause de l'affaire des assistants parlementaires du Modem. « Notre chagrin est immense », dit François Bayrou, un de ses proches confie. Une part de lui-même est partie.
Et à l'annonce de ce décès, l'Assemblée nationale a respecté une minute de silence. Très grande émotion dans toute la sphère politique. La France perd une responsable politique de grand talent, dit Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon rend également hommage à une adversaire exemplaire de loyauté. Marine Le Pen a une présidente de commission attentive à tous les députés.
C'est un vote historique qui s'est tenu aux États-Unis. Donald Trump est le premier président américain à être mis en accusation 2 fois. Le fameux impeachment, la Chambre des représentants, dirigée par la démocrate Nancy Pelosi, a voté pour.
Aujourd'hui, la Chambre a démontré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis. Que Donald Trump est un danger évident et immédiat pour notre pays. Et qu'une fois de plus, nous honorons ce serment de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis.
Nancy Pelosi, Donald Trump aura donc droit à un second procès au Sénat. Impossible qu'il se tienne avant la passation de pouvoir avec Joe Biden le 20 janvier. Mais ce qui se joue, c'est l'interdiction de briguer un autre mandat.
Donald Trump qui a publié une vidéo dans la soirée sans dire un mot du vote qui venait de se tenir à la Chambre des représentants. Il a lancé un message d'unité et d'apaisement.
Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à surmonter les passions du moment et à s'unir en un seul peuple américain. Choisissons d'aller de l'avant, unis, pour le bien de nos familles, de nos communautés et de notre pays.
En tout cas, Washington est placé sous très haute sécurité. Des blocs de béton bloquent les principaux axes du centre-ville. D'immenses grilles protègent les bâtiments fédéraux et des centaines de militaires ont passé la nuit à l'intérieur du Congrès. Ils seront 20 000 pour la cérémonie d'investiture la semaine prochaine.
Et pendant ce temps-là, la Terre tourne. Alors, vous allez me dire, c'est normal tous les jours? Non, la Terre tourne, mais de plus en plus vite.
Oui, on peut même dire que notre planète n'avait jamais tourné aussi vite en un demi-siècle. En 2020, le record du jour le plus court a été battu plusieurs fois. Voilà qui mérite quelques explications, Laure d'Autriche.
Oui, en 2020, notre planète a tourné un peu plus vite sur son axe et cela devrait être encore plus net cette année. Bon, on ne parle pas là de plusieurs minutes, seulement de quelques millisecondes, et ce sont les horloges atomiques qui ont permis aux scientifiques d'enregistrer cela. 2020 a connu 28 jours qui sont les plus rapides jamais enregistrés depuis 1930. Pourquoi ces variations ? À cause des marées qui déforment les océans et la Terre, à cause aussi de la vitesse des vents, ou encore de l'érosion des montagnes. Si la Terre tourne plus vite, pour notre vie quotidienne, cela ne change pas grand-chose, mais pour les satellites ou les réseaux de télécommunications qui reposent sur une synchronisation précise, cela peut poser des problèmes. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'était l'inverse. La Terre tournait moins vite. En 2016, les horloges du monde entier s'étaient même arrêtées pendant une seconde pour permettre à la rotation de la Terre de rattraper son retard.
L'or d'Autriche. Et du côté du ballon rond qui tourne lui aussi, un nouveau titre pour le PSG. Les Parisiens décrochent leur 10e trophée des champions après leur victoire hier soir contre Marseille sous une pluie battante. Score final 2-1. Ça se passait au stade Bollaert de Lens.
Merci beaucoup Hélène Zellani. Tiens Hélène, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez des bitcoins ?
Pas du tout.
Non, vous n'avez pas cédé à cette folie des monnaies, des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles. Eh bien, cette histoire rapportée par le New York Times, alors vous savez, le cours de la crypto-monnaie du bitcoin s'est envolé. Un bitcoin peut valoir jusqu'à 30 000 dollars, 25 000 euros. Mais il y a des petits malins qui ont acheté des bitcoins à une époque où ça coûtait vraiment pas cher. Je pense par exemple à cet Américain qui s'appelle Stéphane, qui a acheté 7 000 bitcoins il y a quelques années. Virtuellement, il possède 220 millions de dollars. Sauf qu'il a oublié son mot de passe. C'est ballot. Et on a le droit à 10 tentatives et 10 erreurs maximum. Il s'est déjà trompé 8 fois. Il n'ose plus du tout y toucher. Il a l'équivalent de 220 millions de dollars en bitcoin, 183 millions d'euros qui dorment tranquillement et qu'il ne peut pas récupérer. Il y a 20% des bitcoins qui ne seraient plus accessibles à leurs propriétaires. Ça représente 116 milliards de dollars. Cet argent comme ça dans le virtuel disparu. Je voulais vous raconter cette histoire. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont très très riches, beaucoup plus riches que vous, qui ne peuvent pas toucher à leur argent. Merci Hélène, c'était le journal de 7h. 7h11 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Mathieu Béliard.